Le journal de la mi-journée avec Christophe Beck. Bonjour.
Bonjour. Journée noire dans le ciel de Ryanair. De nombreux pilotes européens refusent d'embarquer aujourd'hui. Ils réclament de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. 400 vols sont annulés. Nous ferons un état des lieux avec une France plutôt épargnée. Et ce conflit interroge sur le modèle économique du low cost. S'agit-il d'un point de rupture? Nous poserons la question à notre invité Gérard Felzer, spécialiste des questions aéronautiques à France Inter. Au Japon, de vastes recherches ont été engagées ce matin sur les traces de Tiphaine Véron, cette Française de 36 ans, portée disparue depuis bientôt 2 semaines. Nous ferons le point sur la mobilisation. S'agit-il d'un fichage politique? Une ONG européenne a compulsé 55 000 comptes Twitter pour y débusquer d'éventuelles tentatives de désinformation à propos de l'affaire Benalla. Le Parti Socialiste porte plainte. Notre consultant Olivier Tesquet trouve la méthode plutôt contestable. Nous reviendrons également sur la guerre des étoiles, prochaine ambition de Donald Trump sur la scène internationale. Et puis sur cette tragédie au Yémen, 29 enfants tués dans l'attaque de leur bus. La météo, Jean-Pierre Hameau, bonjour.
Bonjour Christophe.
Du soleil dans le sud, mais des nuages dans le nord-ouest.
Effectivement, les nuages feront de la résistance cet après-midi le long des côtes de la Manche, apportant quelques averses par endroits. Des Pays de Loire aux frontières belges, en passant par le centre et la région parisienne, le ciel sera partagé entre éclaircies et cumulus bien inoffensifs. Et partout ailleurs, dans la moitié sud du pays, le soleil va briller généreusement. Et puis côté température, les maximales seront un peu fraîches dans le nord-ouest, comprises entre 19 et 23 degrés. Ailleurs, elles seront proches des normales et comprises entre 23 et 27. Ce sera plus chaud dans le sud, comptez entre 30 et 33 degrés.
Merci Jean-Pierre, météo complète à la fin de ce journal.
France Inter.
Avis de gros mauvais temps dans le ciel de Ryanair qui aborde peut-être la pire journée de son histoire avec cette grève européenne des pilotes en pleine saison estivale. Une grève pour les salaires et les conditions de travail. Les pilotes allemands ont rejoint hier leurs collègues des Pays-Bas, de Suède, de Belgique et d'Irlande dans un mouvement puissant. On parle de 400 vols annulés et 55 000 passagers en souffrance. Maxime Debs, bonjour.
Bonjour.
Peu d'impact en France, mais des difficultés substantielles ailleurs en Europe.
Oui, à commencer par l'aéroport de Charleroi, la plus grosse plateforme de Ryanair en Belgique. 82 vols annulés, cela concerne tout de même 14 000 passagers. Mais vous l'avez dit, peu d'impact sur le trafic chez nous. À Paris-Beauvais, une trentaine de vols étaient prévus en décollage aujourd'hui, une douzaine ce matin sur les 12. Un seul uniquement, celui de Stockholm, à 9h55 a été annulé. Les autres sont partis à l'heure, idem du côté de Toulouse-Blagnac. Pas de vol pour Berlin cet après-midi, mais celui de Londres en milieu de matinée a bien décollé. En fait, pour les deux vols annulés que je viens de vous citer, Ryanair avait prévenu les passagers à l'avance. Il n'y a donc pas eu jusqu'ici de surprise, a priori, dans ces deux aéroports au moins. Certains ont tout de même dû reporter leur voyage sur conseil de Ryanair avec les désagréments que cela comporte. J'ai eu hier soir au téléphone une passagère contrariée partie en Italie pour les vacances et qui a dû écourter son séjour, revenir 24 heures plus tôt. 24 heures, c'est le temps que doit durer ce mouvement, lequel pourrait très bien en appeler d'autres très prochainement.
Merci Maxime Debs. Est-ce que ce vendredi noir dans le ciel de Ryanair annoncerait un tournant dans le modèle du transport aérien low cost? Gérard Felzer, bonjour.
Bonjour Christophe.
Vous êtes ancien pilote de ligne, expert aéronautique, consultant pour Radio France sur ces questions aériennes. Alors, Ryanair subit pour la première fois de son histoire un conflit majeur qui l'oblige à annuler des vols. Est-ce que le modèle a atteint ses limites?
Oh oui et non. Il y a O'Leary, le patron pur et dur, qui a fait de cette compagnie la première d'Europe en volume et en termes de rentabilité, a fait son business plan, mais toujours borderline, donc à la limite de la légalité. En plus, il a poussé le bouchon un peu loin en termes de fiscalité, de conditions sociales. Et puis, le prix du pétrole lui a fait baisser sa rentabilité. Alors, le vent tourne, en effet. Il va falloir s'adapter. Et ça, c'est quand même nouveau. Les pilotes qui n'étaient pas salariés, la plupart avec des contrats de auto-entrepreneurs, eh bien, ils sont volatiles. Et comme ils sont volatiles, ils partent dans des compagnies qui les embauchent à de meilleures conditions. Donc, c'est l'arroseur arrosé aujourd'hui.
On le voit également avec les hôtesses et les stewards.
Oui, alors il y a l'ECHA, c'est l'Association Européenne des Équipages en Cabine, basée à Bruxelles, qui revendique 35 000 adhérents, et ils estiment que les droits sociaux doivent s'appliquer aux territoires nationaux et non pas en Irlande, comme le pratique Ryanair, qui est hors la loi depuis des années.
Comment font-ils des économies? Pourquoi Ryanair est-elle la compagnie la plus rentable?
Alors, c'est la plus rentable parce qu'elle joue sur tout, absolument tout. Elle est extrêmement bien optimisée, diraient les compagnies et les compagnies bancaires. Alors, c'est variable. Il y a des low cost plus vertueuses que d'autres. Les plus rentables sont celles qui pratiquent l'optimisation. Alors, en moyen courrier, il faut savoir qu'une compagnie régulière comme Lufthansa ou Air France, un coût de revient d'environ 12 centimes d'euros par kilomètre par passager. Transavia 5,5, EasyJet 5 et Ryanair, le record 3,3. Ça veut dire 4 fois moins que les compagnies régulières. Et il y arrive avec des faux détachés, des fausses bases, des faux indépendants, des fausses subventions, bref, toujours un peu borderline, mais ce ne sont pas toutes les compagnies low cost, évidemment.
Est-ce que ce mouvement aujourd'hui pourrait sonner la fin du low cost ?
Non, sûrement pas, parce qu'ils font du point à point avec des aéroports secondaires, comme bien moins chers, comme Beauvais, par exemple, ou alors sur des subventions publiques dans certaines régions, ce qui est interdit d'ailleurs. Elles font monoflotte, c'est-à-dire un seul type d'avion, donc des économies considérables. D'ailleurs, Ryanair commande du Boeing, qui est une compagnie européenne, ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Et puis, elles arrivent à faire opérationnellement des choses formidables, des demi-tours en moins de 35 minutes entre l'atterrissage et le décollage. Donc les avions volent plus dans la journée, donc ils sont plus rentables. Mais il n'est pas impossible qu'un jour, les low cost remplacent le moyen courrier des compagnies régulières pour faire alimenter les longs courriers, ce qu'on appelle le hub, et notamment à Roissy.
Est-ce qu'on ne risque pas le même scénario que le transport maritime avec des pavillons de complaisance ?
Alors ça, oui, évidemment, on y pense tous. Tout dépend de l'autorité européenne et sa capacité à légiférer. Alors si Ryanair quitte partiellement Dublin, comme il menace de le faire, pour Varsovie, c'est qu'il peut contourner les règles. Exemple, un pilote polonais qui ferait un Varsovie, Paris, Marrakech et retour est parfaitement légal, mais on ne peut pas l'appliquer à tous les vols. Alors contrairement à la marine marchande, les droits de trafic sont réglementés. Ryanair s'est vu infliger des amendes sévères et des interdictions malgré le ciel ouvert. Et puis en termes de résidence, tous les moyens sont bons, y compris lorsqu'on découvre que la résidence principale des pilotes sont des campings, par exemple.
Alors justement, si on pousse cette logique du low cost à son terme, est-ce qu'on peut imaginer des avions sans pilote ?
Alors oui, c'est le rêve. Évidemment, c'est le rêve de toutes les compagnies, des constructeurs. Ils espèrent des avions d'abord monopilotes et puis ensuite sans pilote du tout, des engins autonomes comme les chauffeurs de taxi VTC bientôt. Mais c'est pas pour tout de suite parce que les avions neufs qui se vendent en ce moment, les 737 MAX ou les A320 Neo, ils sont là pour 30 ans. Donc il va se passer quand même du temps avant qu'on puisse concevoir des avions sans pilote.
Merci Gérard Felzer, invité de ce journal de 13h, donc ancien pilote de ligne et expert aéronautique pour France Inter. La bonne vieille Terre ne lui suffit plus. Donald Trump s'intéresse désormais à l'espace. L'administration américaine a annoncé cette nuit la création de la Force de l'espace, 6e branche des forces américaines, une branche à 8 milliards de dollars rien que pour son lancement. C'est davantage un geste politique que militaire. En tout cas, cette ambition de contrôler l'espace n'est pas nouvelle aux États-Unis. C'est ce que nous dit Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Il ne faut pas s'imaginer que cette force de l'espace est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est en fait essentiellement une manière de prendre ce qui existe et, je dirais, d'en accroître la visibilité, essentiellement. Les programmes existent. Les Américains, depuis quelques années, considèrent que l'espace est un point vital pour leur défense, veulent protéger leurs satellites, ont fait un de déclarations, on développe un certain nombre de programmes, tout ça est là depuis plusieurs années et va continuer, il ne va pas y avoir de rupture. En revanche, ce qu'a annoncé le vice-président hier, c'est qu'effectivement, l'exécutif américain aujourd'hui voulait créer une 6e branche, comme on dit, donc une nouvelle armée de l'espace. Il faudra pour ça modifier des lois fondamentales, etc. Ça va prendre un certain temps. Et entre-temps, il annonce qu'il faut renforcer, je dirais, rendre plus cohérent l'existant, même si cet existant aujourd'hui est géré par l'armée de l'air américaine, l'Air Force, qui voit ça d'un mauvais œil.
Xavier Pascaud avec Sophie Bécherel. Une battue avec 80 hommes, un hélicoptère et un drone. Les autorités japonaises ont, semble-t-il, décidé de mettre les moyens pour tenter de localiser Tiphaine Véron, cette Française de 36 ans, portée disparue depuis le 29 juillet près de Nikko, au nord-est de l'archipel. Philippe Rendet, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'avoir la famille de Tiffaine au téléphone, une famille toujours dans l'expectative.
Oui, le message que vient de recevoir la famille de Tiffaine il y a quelques minutes est clair. La battue du jour n'a rien donné et pourtant, vous l'avez dit, les autorités japonaises se sont mobilisées, mais les recherches sont terminées pour aujourd'hui. Emmanuel est la cousine de Tiffaine.
Il y a eu énormément de moyens, plus de 100 pompiers et membres de l'armée avec des équipes cynophiles, des hélicoptères, des drones, tous équipés de capteurs thermiques. A priori, c'est une région montagneuse, il peut y avoir pas mal de personnes qui se perdent dans les forêts, donc ils sont censés pouvoir rechercher des disparus sur place avec ces moyens-là.
Est-ce que vous avez réussi à faire borner le téléphone portable, géolocaliser le téléphone ?
Non, aucune possibilité pour le moment de géolocaliser le téléphone. Il a été possible en revanche de contacter Google en obtenant une réquisition pour avoir accès au compte de Tiffaine. Ça n'a rien donné. On est là encore dans l'expectative.
L'expectative car aujourd'hui, 12 jours après, aucune piste n'est réellement privilégiée. Il y a bien sûr le témoignage de ce couple de touristes allemands qui a pris le petit déjeuner avec Tiffaine. Le dimanche 29 juillet, la jeune femme serait partie visiter un lieu de culte dans une forêt ou un musée. Il y a aussi ce témoignage d'un randonneur qui a déclaré avoir aperçu une étrangère seule descendant le mont Nakimushi dans la région de Nikko ce même dimanche 29 juillet vers midi. C'est d'ailleurs dans cette zone aujourd'hui que les recherches sont concentrées. Tiffaine Véron est épileptique et peut avoir fait une crise, mais la piste criminelle n'est pas écartée. Sa famille se dit en tout cas persuadée qu'elle n'a pas pu disparaître volontairement. Bref, vous l'aurez compris, toujours le même constat, aucune piste n'est privilégiée. En attendant, une cagnotte pour soutenir la famille est en ligne sur Internet. Plus de 12 000 euros ont déjà été récoltés.
Philippe Rendet, merci.
Le journal de 13h sur France Inter.
Deux gendarmes ont été blessés au couteau ce matin à Vieux-Boucau dans les Landes lors d'une altercation avec des individus suspectés de vol. C'est ce que rapporte France Bleu Gascogne ce matin. L'un des gendarmes est sérieusement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Orage avec 16 000 impacts de foudre relevés hier. Ce jeudi était la journée la plus électrique de l'année, particulièrement sur l'Ardèche et le Gard. Ce matin, c'était le retour au calme après les inondations et les évacuations d'hier. On est toujours sans nouvelles d'un ressortissant allemand de 66 ans, dont la caravane a été emportée à Saint-Julien de Pérolas, dans le Gard, où 184 personnes avaient été évacuées d'un camping. Deux personnes, justement, ont été placées ce matin en garde à vue, après, dans l'enquête sur cette inondation, après l'inondation de cette colonie. Il s'agit de deux dirigeants de l'association allemande propriétaire du terrain. Lendemain d'orage, François Breton est allé vivre cette matinée d'après orage à Saint-Marcel d'Ardèche.
Le chemin d'accès au camping fait de gros cailloux et de béton est dévasté. Il est impraticable pour la plupart des véhicules. Il y a des crevasses de 2 à 3 mètres de profondeur par endroit. Une partie du chemin a même été emportée par les eaux, par le torrent d'eau, me confie Sandrine, la gérante. Trois voitures ont aussi été emportées par le courant. Elles sont inutilisables, cassées. Sandrine, la gérante, n'avait jamais vu une telle situation. Le chemin est en cours de réfection. En fait, on se sert des gravats qui ont bouché la grotte de Saint-Marcel, qui se situe au-dessus du camping, et bien pour boucher les trous du chemin. Mais cela va prendre du temps. Au moins 48 heures, confie à la gérante. 165 personnes sont bloquées en bas. L'ambiance reste pourtant calme entre les vacanciers. Les pompiers vont effectuer plusieurs ravitaillements en eau et en vivres pour les campeurs. Un ce midi est prévu par bateau, l'autre ce soir sera fait par la route.
François Breton de France Bleu, Drôme Ardèche. En Corse, on est toujours sans nouvelles d'un randonneur de 41 ans, vu pour la dernière fois alors qu'il entreprenait l'association L'Ascension du Gervin. Dans le massif du Mont-Blanc, les recherches ont repris ce matin pour tenter de retrouver trois alpinistes italiens portés disparus depuis trois jours vers l'aiguille des Grands Montets. La route, avec un nombre de tués en baisse au mois de juillet par rapport au même mois de 2017, moins 5% avec 324 tués, une baisse qui confirme la tendance amorcée depuis l'an dernier. Sur les routes de France, nous abordons un week-end de chassé-croisé sur la route des vacances en orange cet après-midi et en rouge teinté de noir demain dans le sens des départs. C'est une question qui n'est pas tranchée. Une étude belge a compulsé l'audience de l'affaire Benalla sur Twitter pour y débusquer les éventuelles sources de désinformation. Pour accréditer son travail, l'ONG européenne Disinfolab a divulgué 55 000 comptes Twitter qu'elle a suivis en les classant. Question, s'agit-il d'un fichier politique ? Les nombreux internautes qui ont saisi la CNIL pensent que oui. Olivier Tesquet, journaliste à Télérama, estime que la méthode est contestable.
Aujourd'hui, on se retrouve face à une ONG, en tout cas qui se présente comme telle, qui a compilé des tweets qui étaient publics, certes, mais qui derrière ont fait une exégèse politique. Sur quelle base? C'est assez flou, c'est-à-dire est-ce que le fait de retweeter une information suffit à vous catégoriser, à vous ranger dans une classe, que ce soit une classe plutôt sensibilité les Républicains, plutôt sensibilité la France insoumise? On peut effectivement se poser un certain nombre de questions sur la méthodologie, d'autant plus que des éléments qui sont présentés comme des éléments factuels de l'enquête, c'est-à-dire le fait que certains comptes se seraient rendus coupables de propagation de fausses informations. Certaines de ces fausses informations sont en réalité des informations qui ont été vérifiées par la presse. Donc je trouve que une organisation qui prétend étudier, cartographier et lutter contre la désinformation, tomber dans les travers qu'elle veut dénoncer, c'est assez ironique et un peu dangereux.
Voilà, Olivier Tesquet, journaliste à Télérama, animateur de l'émission Tout est numérique le samedi matin sur France Inter. Il répondait à Jean-Philippe Deniau. Politiquement, l'affaire commence à faire du bruit, en tout cas, de Jean-Luc Mélenchon au Parti Socialiste qui a annoncé ce matin qu'il allait porter plainte. Laurence Perron, bonjour.
Bonjour.
Pour la gauche, le Benalla Gate n'est pas fini.
Et à droite aussi, hein, pour l'opposition, de manière générale, cette affaire dans l'affaire est une aubaine. Il suffit d'ouvrir Twitter pour voir avec quelle gourmandise les politiques fichés commentent. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, est stupide barbouze, je ne suis pas un bot russe, c'est juste moi Mélenchon qui tweete contre toi, si t'as besoin de me fichier pour t'en rappeler, c'est que t'es encore plus bête que tu en as l'air, signé matricule 14452. Pour Éric Coquerel, député de la France Insoumise, il est grave que le porte-parole du gouvernement ait relayé cette étude pour disqualifier une indignation.
Il y a une tentative de désinformation d'abord de cette ONG, dont on apprend en plus qu'elle est quand même liée à ce qu'on appelle l'Atlantic Council, c'est-à-dire des intérêts nord-américains, là pour le coup, pour de bon. Et puis le gouvernement, enfin en tout cas l'Élysée, s'en est manifestement servi. Ça a servi à essayer de prouver qu'en réalité l'affaire Benalla était peu de choses et que ce sont les oppositions et derrière, soi-disant, des intérêts russophiles qui auraient agité la twittosphère. Et c'est une thèse complotiste. Moi, je trouve que c'est franchement inquiétant.
Éric Ciotti, pour les LR, annonce qu'il va saisir la CNIL. Le PS va porter plainte. Rachid Temal, ancien premier secrétaire du PS, sénateur du Val-d'Oise.
C'est un fichier qui vise quoi ? À mettre sur un papier celles et ceux qui ont eu l'outrecuidance de tweeter contre ou sur l'affaire le Benalla Gate. Et donc c'est tout simplement scandaleux puisque c'est totalement illégal et les fichages politiques, ça rappelle bien souvent les heures sombres de notre passé. Et donc je vais saisir dès aujourd'hui la CNIL, le défenseur des droits également parce qu'il y a des éléments de discrimination et le procureur de la République parce que je considère que c'est inacceptable. Le partialiste va également se saisir de cela, parce qu'il peut accepter, encore une fois, que dans notre pays, il y ait des fichages politiques.
La balle est maintenant dans le camp de la CNIL, en tout cas pour de prétendus bots russes. Les comptes Twitter mis en cause sont vraiment bien incarnés.
Merci Laurence Perron. Le coup de fil suffira-t-il à faire bouger Vladimir Poutine ? Emmanuel Macron doit appeler aujourd'hui son homologue russe pour évoquer la situation du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, en grève de la faim depuis 3 mois, alors qu'il purge une peine de 20 ans de colonie. Sentsov condamné pour terrorisme à l'issue d'un procès qualifié de stalinien par Amnesty International. Le Yémen est sous le choc après la frappe aérienne qui a tué 29 enfants à bord d'un bus à Dayan, dans le nord du pays. L'ONU et les États-Unis réclament une enquête rapide et indépendante. La coalition militaire conduite par l'Arabie Saoudite soutient qu'elle visait un bus transportant des combattants. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Que sait-on sur cette attaque ce matin ?
Oui, vous l'avez dit, hein, la coalition, ce qu'elle affirme, c'est que la frappe visait des lanceurs de missiles et que donc elle était conforme au droit international et humanitaire. Et la coalition accuse en fait les rebelles d'utiliser des enfants comme boucliers humains. Alors les rebelles houthis soutenus par l'Iran, eux, ils démentent évidemment. Et quoi qu'il en soit, c'est toujours les civils qui paient le monstrueux coût humain de ce conflit. Mais en fait, la question que se posent désormais toutes les ONG, tous les observateurs, c'est est-ce que ce drame va enfin marquer un tournant dans cette guerre qui dure depuis 3 ans sans que la communauté internationale, sans que le Conseil de sécurité des Nations Unies ne se décide à réagir? Parce que pour Riyad, la guerre du Yémen devient en fait un Vietnam, une guerre que l'Arabie Saoudite imaginait gagner d'avance et dans laquelle aujourd'hui elle s'embourbe financièrement mais aussi stratégiquement. À l'heure où l'homme fort du royaume, le prince héritier Mohamed Ben Salman, mène une offensive de communication intensive pour changer l'image du pays, vous l'avez vu, en autorisant par exemple la conduite pour les femmes, en autorisant la construction de cinéma, eh bien, en fait, la barbarie de la guerre au Yémen vient miner cette stratégie et la mort de ces 29 enfants pourrait peut-être enfin obliger la communauté internationale à faire pression sur la coalition.
Merci Claude Guibal. Sur le front des incendies de forêt au Portugal, le gigantesque feu qui faisait rage depuis une semaine dans la région de Monchique est stabilisé ce matin, mais les pompiers restent en alerte. À des milliers de kilomètres en Californie, l'incendie car qui sévit depuis près de 3 semaines a fait une nouvelle victime, un pompier mécanicien tué hier dans un accident de la route. Les sports avec de l'athlétisme dans le concours du saut à la perche. Renaud Lavillenie est entré en course pour un 4e titre européen. On file au championnat d'Europe à Berlin. Franck Ballanger, bonjour.
Bonjour Christophe.
Ça s'est plutôt bien passé pour les qualifications, notamment pour Renaud Lavillenie ce matin.
Même pour tous les Français, hein, puisqu'ils seront 3 en finale dimanche ici au Stade Olympique. Et effectivement, Renaud Lavillenie a survolé, hein, pour prendre une image très très perche, ses qualifications. Il a passé tranquillement son premier essai à 5m51, également son premier essai à 5m61. La barre de qualification était passée à 5m66, mais il n'a même pas eu besoin de franchir cette hauteur à 5m61. Cela suffisait et Renaud Lavillenie sera donc dimanche en lice pour un 4e titre de champion d'Europe. Il sera accompagné dans ses efforts par les 2 autres Français, Alioune Séné. Belle performance pour ses premiers championnats d'Europe et puis également par Axel Chapelle. À noter que Mondo Duplantis, le Suédois, le principal rival de Renaud Lavillenie, s'est lui aussi qualifié. Il y a eu quand même des dégâts avec les échecs et les éliminations de Raphaël Holzdepe, l'Allemand ici chez lui, le champion du monde 2013, et puis également pour le Polonais Robert Sobera, champion d'Europe il y a 2 ans à Amsterdam et qui a été éliminé dans ce concours de qualification.
Merci Franck Ballanger en direct de Berlin. En football, retour de la Ligue 1 avec la reprise du championnat de France de football ce soir. Et puis la météo, le beau temps est à l'horizon. Jean-Pierre Hameau.
Cet après-midi, des nuages feront de la résistance le long des côtes de la Manche, apportant par moments quelques averses. Ces averses prendront un caractère orageux près des frontières belges. À l'avant des Pays de Loire à la région centre et de l'Île-de-France à la région Grand Est, le ciel sera partagé entre éclaircies et cumulus bien inoffensifs. Et partout ailleurs, le soleil va briller généreusement. À noter tout de même un peu plus de nébulosité avec quelques ondées au-dessus des massifs pyrénéens et du sud alpin, sans oublier la montagne corse où ces averses prendront un caractère orageux. Et puis côté température, les maximales un peu fraîches dans un grand quart nord-ouest seront comprises entre 19 et 23 degrés, comptées entre 23 et 27 degrés du sud-ouest au nord-est et jusqu'à 33 degrés dans le sud. Et pour finir, comptez sur un beau week-end ensoleillé et chaud.